Le camp. Le Seigneur auquel je pense davantage depuis que je suis en péril ne m'accorde plus toutes ces faveurs qui m'ont fait croire jusqu'à ce fatal été 42 que j'étais l'enfant chéri de la Providence. Il pense sans doute qu'il en a fait suffisamment, mais tout de même, j'espère qu'il n'entend pas m'abandonner totalement dans l'épreuve. Je constate avec une profonde reconnaissance que le Très-Haut me réserve encore quelques grâces. C'est ainsi que dans le convoi qui nous a acheminés vers une gare déserte à une dizaine de kilomètres de Prague, j'ai retrouvé Janosch que je pensais ne jamais revoir. Il me présente Alexei, un monsieur sensiblement plus âgé que nous, mais apparemment vigoureux et fort civil. Dès que nous sommes montés dans le wagon, nous faisons bloc et allons nous installer sous une de ces ouvertures barrodées. Ces dernières, quand le train roulera, distilleront un peu d'air frais dans la puanteur ambiante. La composition se met péniblement en route. C'est à se demander si le train ne va pas dérailler. Le wagon tangue dangereusement, comme un cargo sur une mer agitée. Je me prends à sourire. Heureusement que les SS nous ont entassés à près d'une centaine par wagon, ce qui limite singulièrement nos mouvements. N'était-ce cette odeur forte de corps en sudation, de surcroît pas lavé depuis des jours ou des semaines, je me satisferais presque de ce nouveau répit sur mon chemin de croix. Je suis le seul étranger dans cette cargaison de Tchèques. Je me suis fait discret dans la communauté des déportés, mais comme en prison, tout se sait très vite. Mon nom a commencé à circuler, auréolé de mes faits d'armes, l'assassinat d'Heydrich, la mort héroïque de Kubis, Gapsik et Valsik, dont je passe pour être le dernier complice vivant. On parle aussi de mon affront à Baume qui a fait exulter des centaines de prisonniers. Je ne commente pas, je me retiens de dire que je ne suis pour rien dans la fin tragique de mon ami et que c'est par un réflexe irraisonné que j'ai offensé si gravement et publiquement le chef de la CIPO. Bientôt, autour de moi, les regards se font amicaux, les sourires viennent sur les lèvres et sans le vouloir ni même le souhaiter, je me vois promis et promu au rang de grand patriote tchèque. Quel dommage que Reinhardt ne soit pas là pour assister à ce dernier grand service qu'il vient de me rendre. La chaleur est étouffante et bientôt les premiers malaises se produisent. Je vois alors notre petite société s'organiser avec une remarquable discipline. C'est Alexei qui naturellement en devient le chef. J'apprends par Janosch que cet homme décidé et volontaire était gouverneur de Košice en Slovaquie. Janosch et moi le secondons de notre mieux. Alexei se montre particulièrement efficace dans ses nouvelles fonctions. Il fait dégager un espace pour allonger les malades, trouve un médecin parmi les déportés, désigne des infirmiers et prélève, sur les seaux d'eau tiède que les SS de l'escorte nous laissent remplir dans les gares, un stock de survie pour les prisonniers en voie de déshydratation. J'admire en silence le tact de cet homme et me soumets, comme tous les autres, aux nécessités de la solidarité. De tous les wagons, une vingtaine, qui transportent donc 2000 déportés vers Theresienstadt, le nôtre est assurément le plus discipliné. Je le réalise quand, au bout d'un voyage de plus de 24 heures, pour bien peu de kilomètres, nous parvenons à Theresien. Le convoi s'arrête une dernière fois. Les deux lourdes portes de notre wagon à bestiaux glissent en gémissant sur leurs rails et libèrent l'ouverture sur toute sa largeur. Il faut descendre, c'est-à-dire sauter sur le ballast caillouteux, au risque pour les moins dégourdis de s'y casser une jambe ou de se tordre une cheville. Avec Alexei et Janosch, nous hurlons à ceux d'entre nous, qui sont les plus valides, d'aider leurs camarades, et les choses ne se passent pas trop mal quand surgit une créature que l'on pourrait croire sortie d'une revue d'anthropologie. Le pithécanthrope se met en devoir d'accélérer la descente en aboyant des ordres incompréhensibles. Dans un allemand rugueux, il nous ordonne à Alexei et à moi de sauter aussitôt, alors que nous demeurons debout sur le bord de la porte pour ordonner ce qui peut l'être. Je me retourne vers lui et lui explique, ou tente de lui expliquer, que tous n'ont pas fait leur classe chez les parachutistes. Mon humour l'exaspère et je reçois dans les jambes un coup de crosse qui me fait tomber du wagon de tout mon long et d'une bonne hauteur. Dans ma chute, je l'accroche et nous roulons à terre ensemble, lui par-dessous, moi par-dessus, ce qui libère une clameur joyeuse de la part de tous les assistants. Le SS se relève, fou de rage. Pour la première fois de ma vie, je vois ce que l'on appelle l'écume aux lèvres. Toujours, dans cette langue rugueuse, il m'ordonne de me mettre à genoux, ce que je refuse catégoriquement. Les yeux exorbités, la salive sur le menton, il me met alors en joue et arme son fusil. Je me détourne de lui et porte mon regard sur Janosch. Il me fixe droit dans les yeux. Je lis de la compassion, mais aussi de la fierté sur son visage. Cela me donne du courage pour tenir ma promesse, mourir dignement. « Was passiert ?» La voix vient de derrière. C'est celle du commandant. Je comprends sur le champ que les choses prennent une autre tournure. Je réponds. Ce soldat m'a fait tomber du train, et dans ma chute, je n'ai pu l'éviter. Je ne vous demande rien, vous parlerez quand je vous adresserai la parole. Vous, dites-moi ce qu'a fait ce prisonnier. Il m'a sauté dessus, bredouille le SS. Comment aurait-il pu le faire si vous étiez à la distance réglementaire de cette racaille? Vous permettez, commandant, c'est un accident. Mon camarade a chuté parce qu'on l'a frappé aux jambes. Je reconnais la voix d'Alexei, celle d'un homme accoutumé à se faire entendre. Qui est ce prisonnier ?
Le baron von Adler, commandant. Comment le savez-vous ? Nous sommes quelques-uns à nous connaître dans le wagon.
L'officier, qui m'ayant contourné, vient se placer devant moi. Je découvre un visage encore jeune, mais curieusement dur, hostile. Il est vrai que de mon côté, je ne le considère pas avec une grande sympathie, et que de surcroît, je ne dois guère paraître avenant, avec une barbe de plusieurs jours, sale et puant. Alors, c'est vous le baron von Adler ? Un oui sourd sort de ma gorge. Je suis sidéré d'être ainsi connu de cet élégant officier, qui ajoute avec un sourire narquois. Je suis flatté de vous rencontrer, baron. Votre réputation vous précède. Mais je ne vous vois pas du tout en Max Schmerling pour mettre au tapis un de mes hommes.
Effectivement, c'est lui qui m'a fait tomber, voyez-vous-même.
Je lève le bas de mon pantalon, du sang coule, ce qui ne l'émeut guère. Vous devez apprendre à ne pas vous trouver au mauvais endroit, au mauvais moment, baron. Nous allons compléter votre éducation. Allons, fait-il à l'adresse de la brute, remettez-moi ce troupeau en ordre, on nous attend au camp. Je rejoins la troupe qui s'est rassemblée en rang par trois et n'attend plus que le signal du départ. Je me place entre Alexei et Yanoch. 2 kilomètres plus loin, parcourus d'un pas vif, malgré la fatigue, nous découvrons, au détour de la route, la forteresse dont l'entrée s'agrémente d'un arc, avec ces trois mots dont l'ironie ne m'apparaît pas immédiatement. Arbeit, Macht, Frei. Nous franchissons le porche pour être bientôt stoppés au milieu d'une vaste cour, une cour de caserne. Rien ne se passe, pas d'autre bruit que nos propres murmures, que les gardes ne cherchent pas à faire cesser. Nous restons ainsi un très long moment, plus d'une heure, jusqu'à ce que paraisse au loin un cortège noir composé d'une vingtaine de soldats. Les SS de notre escorte aboient des commandements auxquels je ne comprends rien, en dépit de mon excellent allemand, mais, comme par magie, tout notre monde, de près de 2 milliers d'êtres exténués, se remet en bon ordre, formant un immense rectangle de plus de 100 mètres de long sur une quinzaine de large. L'homme qui s'approche en tête des nouveaux arrivants doit être le chef de camp. Les cheveux gris, la moustache martiale, je remarque son bras droit pend le long de son corps. Il se lance dans une longue harangue, nous enjoignant de nous soumettre à la discipline du camp et nous prévenant charitablement que nos conditions de vie ne peuvent évoluer que dans le sens de leur dégradation. Il termine sur un « Heil Hitler » que reprennent tous ses séides et puis fait demi-tour, laissant sur place les officiers subalternes. Ces derniers entament un appel interminable qui va durer près de 3 heures. Des hommes tombent, ramassés par leurs voisins, puis soutenus tant bien que mal. Les plus atteints, ceux qui décidément ne tiennent plus debout, sont emportés par des corvées que désignent les gardes jusqu'à l'infirmerie. Rares sont ceux que l'on reverra. Alexei, à côté de moi, a peine à se maintenir, et nous lui apportons discrètement notre aide, Yanoch et moi. Quand, enfin, nous entendons appeler et donner notre numéro de baraque, nous soupirons. Nous restons tous les trois ensemble, et j'en remercierai presque l'adjudant qui annonce nos noms. C'est pour nous un gage précieux, car je me doute bien que rien n'est plus dangereux que la solitude au milieu de la foule carcérale. Nous gagnons notre bâtiment et nous choisissons une couche étroite où il nous faudra reposer à quatre. Théoriquement du moins, personne ne venant encore troubler notre confort tout relatif. Les Allemands sont d'incorrigibles organisateurs. Ils ajoutent à cette rigidité qui leur interdit de sortir de leur schéma intellectuel préétabli l'exigence maladive de la propreté, ce dont je suis loin de me plaindre. La douche devient, dans ces conditions, une institution, un rite auquel il faut satisfaire, bien davantage pour le confort olfactif de nos gardiens que pour le nôtre. Toutefois, ils ne vont pas jusqu'à nous donner du savon, denrées réservées aux uniformes noirs, ni d'eau chaude bien entendu, et seule la vigueur de nos frictions nous assure quelques apparences convenables. Ce sens de l'organisation s'étend à tous les aspects du quotidien. Tout y est calculé. Appel, départ pour les chantiers, soupe, une seule par jour, rassemblement dans la cour, de préférence sous un soleil écrasant ou par un froid sibérien. Toutes ces contraintes, bien qu'éprouvantes, n'ont cependant rien à voir avec le régime carcéral que je viens de subir à Prague. En prison, où je m'étais préparé au pire, je me suis presque habitué à vivre au jour le jour. L'horizon n'existe plus pour le détenu, ni sur le plan de l'espace, enclos entre quatre murs, ni sur celui du temps que délimitent la soupe, le couvre-feu et le réveil. Le temps que meuble le désœuvrement destructeur est presque aussi mortel que l'angoisse qui régulièrement vient nous saisir au moindre changement de régime, à la moindre rumeur. Mais l'angoisse, c'est déjà la peur de l'avenir, et pour la combattre, je m'astreins à vivre au présent. Au camp, j'adopte la même attitude résignée. D'ailleurs, il vaut mieux pour mon équilibre que me soient épargnées les affres du lendemain ou les incertitudes d'une nouvelle déportation. C'est déjà bien assez que de subir, ou de redouter de subir ce qui revient au même, les provocations des geôliers, les coups qui s'abattent aussi soudainement que les orages d'été, et les tourments qui, eux, lentement mais inexorablement, nous rongent. Je suis partagé entre la crainte de ne plus jamais revoir les êtres qui me sont chers et le fol espoir de les retrouver un jour.
De ce point de vue, la promiscuité, en tout autre contexte insupportable, me rassure et m'aide à vivre. Je nage d'ailleurs en plein paradoxe, peiné du sort de mes plus proches co-détenus, indifférent à celui des plus éloignés, ceux-ci occupant les couchettes voisines. Ma vraie famille, ce sont désormais Yanoche et Alexei. Dans la baraque où les Juifs sont les plus nombreux, on nous appelle les Tchèques, sans la moindre animosité, me semble-t-il, presque avec de la sympathie. Nous ne cherchons en rien à nous distinguer au milieu de ces malheureux. Et malheureux, les Juifs le sont bien plus que nous. Les gardiens les persécutent sans répit et les maltraitent systématiquement. Beaucoup, dans les autres baraques, nous croient d'ailleurs enfants de David, et comme je n'ai aucune raison de me cacher, je n'en ai pas davantage de revendiquer. Alexei n'est plus le chef naturel de notre petite communauté. Nous sommes tous devenus de simples éléments d'un système complexe où le vrai commandement, efficace et indispensable face à l'énorme machinerie nazie, est exercé de façon occulte par une sorte de directoire dont je ne connais aucun membre. Nous ne cherchons pas d'ailleurs à en savoir plus. De toute façon, il serait bien difficile de se retrouver dans le renouvellement incessant des êtres qui fait le quotidien du camp. Quand nous réalisons un beau matin que nous sommes ensemble depuis 3 mois, cela nous paraît déjà être une éternité. Ce sont les frissons de l'automne qui nous rappellent à une réalité que nous nous efforçons d'oublier. Bien entendu, les étuves se font glaciaires. Pour tenir, nous nous blottissons les uns contre les autres, prenant à tour de rôle la place du milieu, la moins froide. C'est pourquoi nous accueillons sans déplaisir l'adolescent qui vient timidement nous demander si nous pouvons lui faire une petite place sur notre couchette. C'est un Français. Je l'identifie aussitôt comme un méridional et son état physique, encore convenable, atteste qu'il a été récemment arrêté. Je lui glisse une phrase de bienvenue. Ravi d'entendre parler la seule langue qu'il possède, il se jette aussitôt dans une longue confession qui d'emblée me passionne. Louis est typographe. Il vient de sortir de l'apprentissage effectué dans l'imprimerie du Petit Provençal à Marseille. Avec l'enthousiasme inconscient de son âge, influencé sans doute par l'entourage familial, il s'est aisément laissé convaincre de rendre des petits services à la résistance, porter des provisions, des plis et enfin de l'argent. Cela n'a pas duré plus longtemps que le temps des limas. Dénoncé par un jaloux, amoureux et conduit de l'élu de son cœur, il a été interpellé par la police française, puis livré à la Gestapo. J'ai été illico presto interrogé par de gros bras et expédié ici, mais je vous préviens, je ne vais pas y rester. Quand je traduis cette réflexion à mes amis tchèques, il sourit malgré eux. Alexei murmure doucement. Gottfried, dis-lui que ce n'est pas raisonnable de se mettre pareilles idées en tête. Mais je ne traduis pas. Après tout, si Louis trouve quelque réconfort dans un projet d'évasion, mieux vaut le laisser espérer. Le problème que nous découvrons bientôt, c'est que Louis est très sérieux quand il parle d'évasion. La vérité, c'est d'un phénomène que nous avons hérité. Incroyablement observateur, imaginatif, habile de ses mains, il possède une qualité inestimable, indispensable même dans ce genre d'entreprise. Il ne doute de rien et surtout pas de lui-même. Avec amusement, puis avec curiosité, nous le voyons s'affairer, fouiller, fouiner, prendre des notes, disparaître mystérieusement, puis surgir là où on ne l'attend pas. Je l'appelle affectueusement le fantôme et il est le premier à en rire. Alexei et Yanoche, aucunement sensibles aux sciences occultes, sont moins réceptifs à l'humour du terme. Il n'empêche que c'est à nous, et singulièrement à moi, que l'on s'adresse pour retrouver Louis quand son absence pose un problème. À force d'inventer des excuses auprès des surveillants qui le cherchent, je perds le fil de mes propres mensonges, mais il semble que les instances supérieures du camp s'accommodent fort bien de cette situation, puisque les capots, qui pourtant se doutent bien que je leur raconte des histoires, ne m'infligent jamais de punition. Parfois, je trouve tout de même un peu gros de frôler si souvent la dérouillée ou la privation de soupe, mais invariablement, je vois surgir Louis, dont ne sait où, souriant et décontracté, avec en prime 2 ou 3 pommes de terre ou un morceau de chou que nous partageons avec reconnaissance. Dans l'état où nous sommes, cela apaise notre rancœur et surtout nos contractions d'estomac. Alexei, Yanoche et moi n'évoquons pas le sujet, mais nous pensons très fort que Louis doit s'être ménagé quelques relations proches de la hiérarchie du camp. Je m'en rends compte un jour où, agacé d'une absence un peu plus longue et donc plus dangereuse que d'habitude, je m'écris « Mais bon sang, où est-il? Qu'est-ce qu'il peut bien faire ?» Alexei me fixe bizarrement et me rétorque. Tu n'en as pas la moindre idée. Je n'ose pas y croire. Eh bien si, crois-le, mais quelle importance si cela nous procure un répit. De toute façon, qu'avons-nous à perdre? Avais-je conclu avec philosophie. Comme s'il devinait nos pensées, Louis, quelques jours plus tard, prend un air mystérieux pour nous entretenir d'un projet si fou que nul d'entre nous n'aurait osé l'imaginer. Lorsqu'il nous l'énonce, nous en restons pétrifiés. Il commence solennel comme un pape. Chers amis, vous qui m'avez si bien accueilli et qui vous posez des questions au sujet de mes absences répétées et inexpliquées, je vais faire une proposition qui va vous sembler audacieuse, mais qui est notre seule chance de salut. Incrédule, plus qu'intrigué, nous nous resserrons autour de lui. Le jeune homme savoure manifestement son secret et prend son temps avant de nous glisser tout bas ce mot que je traduis à mes amis tchèques. évasion. Autant Yanoche paraît stupéfait du projet, autant Alexei arbore un air approbateur. Pour ma part, ma curiosité éveillée, je presse Louis de nous en dire davantage. L'affaire est d'importance et mérite d'être débattue sérieusement. Nous ne pouvons donc plus nous contenter de nous exprimer dans un sabir approximatif et pour la première fois, je traduis fidèlement tous les propos échangés. Ils sont nombreux et nous font avancer sur la voie d'une meilleure compréhension du plan de Louis. Cela prend du temps et nous n'en avons pas terminé de siffler l'heure du coucher. Dans le silence de la chambre, les chuchotements s'entendent aussi bien que des conversations à voix haute et il se trouve dans cet espace suffisamment de mouchards pour nous décourager de poursuivre notre discussion. Nous nous endormons, par conséquent, serrés les uns contre les autres, mais chacun ruminant dans sa tête les extraordinaires paroles de Louis. Il nous en a déjà suffisamment dit pour que nous sachions comment il en est arrivé à cette idée incroyable. Ainsi, nous pouvons imaginer ce que pourrait être la suite de l'aventure. Louis, qui n'est pas mal fait de sa personne, a été remarqué par un jeune officier SS qui paraît maintenir, au sein de ce corps d'élite, la tradition uraniste des chemises brunes de Rome. Notre méridional, qui a compris que l'espérance de vie se joue sur de tels détails, n'a pas repoussé ses avances et s'est borné à ne jamais se trouver seul trop longtemps avec le blond saxon qui, pour gagner ses faveurs, a commencé à lui faire des cadeaux. Cadeaux sous forme de nourriture que nous avons consommée sans nous formaliser qu'elle soit le fruit du péché. Plus finement encore, Louis a obtenu la promesse d'être affecté à l'infirmerie du camp et, ce qui est plus gratifiant encore, dans la section des femmes où, hasard ou malice, un médecin français homosexuel dirige l'équipe des soignants. Louis a demandé à son cher Axel si nous pourrions, nous, ses amis, venir travailler avec lui. D'accord, mais un seul avait concédé le SS, ce qui devait nous laisser la lourde responsabilité de choisir entre nous l'heureux bénéficiaire de la générosité nazie. Pour ma part, en traduisant, j'ai avancé l'idée que ce devrait être Alexei. Il est le plus âgé de nous trois, et le moins solide également. Et ce serait justice de lui donner cette chance. Alexei conclut sobrement que nous en reparlerons plus tard. Ne perdant décidément pas son temps, le jeune Français avait repéré, dans une pièce attenante à l'infirmerie, un stock de vêtements civils que deux fois par mois, des volontaires viennent chercher pour les emporter, Dieu sait où. Il a tout de suite réalisé que lors d'une évasion, cela présenterait un double avantage. Premièrement, celui de pouvoir se glisser dans ses tas d'habits pour franchir les portes du camp, et deuxièmement, il suffirait ensuite d'y trouver de quoi se vêtir décemment. Cette dernière constatation sera un atout de poids quand il s'agira de quitter nos uniformes de prisonniers pour évoluer à l'extérieur du camp en plein hiver. Et s'en est tenu là, pour le moment, et bien des détails devaient être encore réglés. Le lendemain, Louis nous apprend que le temps presse, car le bruit court chez les gardiens que le camp de Térézine doit recevoir bientôt une nouvelle direction. Tout changement dans la routine du camp constituait une menace pour nos plans. Dès que nous apprenons la nouvelle, c'est Yanoche qui prend la parole. Il nous explique qu'il n'a pas dormi de la nuit, taraudé qu'il était par cette idée d'évasion. Il a soigneusement pesé le pour et le contre et tient absolument, non pas à nous proposer une ligne de conduite, mais à nous placer devant le fait accompli de sa décision. Comme tous les timides, il nous dit cela très vite, brutalement, hostile à toute espèce de discussion. Yanoche se sent fatigué. Depuis plusieurs jours, une entérite le ravage et sans soin d'aucune sorte, il ne peut enrayer les dégâts ni espérer manger convenablement pour se redonner des forces. Il ne pourrait donc pas participer aux épreuves qui nous attendent. Il représenterait même une charge pour ceux qui s'évaderont et cela, il le refuse. Comme il lui faut trouver des justifications positives à son forfait, il tente de nous convaincre qu'il saura faire oublier notre absence pendant quelque temps et qu'il contribuera ainsi utilement au succès de notre entreprise. Alexei abonde dans le même sens. Lui non plus n'envisage pas de quitter ces lieux. Il argumente que dans son état, il n'ira pas bien loin et ajoute avec une résignation que si le piétinement allemand devant Stalingrad lui paraît de bon augure, il ne croit pas à une défaite allemande suffisamment rapide pour espérer y survivre, encore moins comme fugitif. Enfin, Louis, qui me paraît subitement moins jeune, prend la parole. Il n'avait pas complètement achevé sa démonstration d'hier soir et il tient à nous livrer les derniers éléments du problème. Il est clair qu'il aurait fallu aux fugitifs une bonne dose de chance pour ne pas être repéré, caché dans le linge d'une panière ou d'un ballot. Le poids d'un homme, même mal nourri, cela se sent. Puisqu'il ne s'agit plus que de lui et de moi, nous devrions essayer de monter dans la camionnette plutôt par nos propres moyens. Il a beaucoup réfléchi au problème et finalement a trouvé un stratagème. Il faudra attirer l'attention des gardiens pendant quelques secondes nécessaires aux fugitifs pour sauter dans le camion et se glisser sous la bâche au milieu des ballots. Cela pourrait se faire à l'occasion d'un rassemblement si quelques déportés veulent bien marcher dans le coup. Il suffira alors qu'au moment de la diversion, nous soyons, lui et moi, dans les parages de l'infirmerie, ce qui ne sera pas bien difficile. Yanoche, visiblement heureux de nous donner un coup de pouce supplémentaire, nous assure alors qu'il en fait son affaire. Il ajoute cette réflexion pleine de bon sens. Le seul qui puisse se débrouiller en Allemagne, comme un Allemand, c'est Gottfried. Et le seul qui soit en mesure de survivre dans la nature, c'est Louis. Croyez-moi, vous êtes fait l'un pour l'autre. La messe est dite. Il ne reste plus qu'à fixer la date. Elle va s'imposer d'elle-même. Louis apprend par son ami SS qu'une collecte de vêtements aurait lieu dans 2 jours, ce qui me laisse juste le temps de me faire porter malade. J'obtiens ainsi du médecin français, heureux de soigner un cousin helvète, une admission à l'infirmerie pour quelques jours. Je m'y installe donc avec l'avantage exorbitant d'un morceau de fromage pour compléter ma ration de soupe et je regarde avec une curiosité amusée mon ami Louis marivauder avec le jeune officier SS, ma foi bel homme et plutôt sympathique. Le jeune Marseillais affecte de ne pas s'intéresser à moi pour ne pas éveiller de soupçons auprès de son cher Axel. Cependant, dès le lendemain de mon hospitalisation, Louis passant devant mon lit me glisse tout bas. Demain, 10h, derrière le bureau du médecin-chef. Je décrypte aussitôt. La camionnette sera à 7h en cours de chargement et ce sera le moment qu'il nous faudra mettre à profit pour nous glisser discrètement au milieu de sa cargaison. Toute la nuit, ponctué de gémissements et de râles, je me prépare au moment qui promet d'être le plus dangereux de ma vie. La perspective de vivre, peut-être mes dernières heures, ne m'effraie pas. Une fois encore, je me fie au Créateur pour ce qui est de mon succès ou de mon échec. Cette certitude d'une fin rapide, soit par la liberté retrouvée, soit par mon propre trépas, me procure un apaisement quasi miraculeux. Quand l'aube arrive avec son cortège d'appels, d'agitation, d'allées et venues du personnel infirmier, la certitude de la réussite m'a pleinement envahi. Sous l'apparence du malade, indifférent à ceux qui l'entourent, je guette les bruits annonciateurs des différents moments de la matinée. Ceux métalliques de la distribution d'un pauvre errat de café, ceux tout en murmure des visites médicales, mais aussi ceux insupportables de la patrouille SS qui vient chercher son lot de malades pour une destination inconnue. En effet, les nazis n'ont rien ralenti le rythme des disparitions. À leurs yeux, ce serait trop commode que de se faire porter pâle pour échapper à la mort. L'infirmerie doit donc fournir son contingent de victimes, sans doute même supérieur à la moyenne des baraquements. C'est un risque à prendre si l'on demande à s'y faire admettre, et je réalise d'un coup que les choses pourraient mal tourner. Cette idée me tétanise. Heureusement, pas d'éclat de voix de la sinistre cohorte des exécuteurs. Apparemment, ce matin, les bourreaux font relâche. À présent que l'alerte est finie, les événements s'enchaînent à toute vitesse. Je vois passer les prisonniers chargés de la collecte des vêtements et je me lève alors, feignant de me rendre aux toilettes. Un courant d'air glacial me saisit dans le couloir venant d'une porte entrebâillée. C'est la porte qui donne vers l'extérieur. Je m'y engouffre et me retrouve derrière l'infirmerie avec pour tout horizon un mur qui me paraît gigantesque. À droite, à gauche, j'hésite un instant, mon cerveau reste bloqué une fraction de seconde, puis d'instinct, je choisis la gauche et pars d'un bon pas. Je contourne enfin le bâtiment et aperçois le camion. La corvée y monte des ballots mal ficelés que 2 détenus réceptionnent et entassent. Comment monter là-dedans? À peine ai-je le temps de me poser la question que la sirène retentit. Des coups de sifflet stridents commencent à résonner en cadence. Comme une volée de moineaux, tous les manœuvres disparaissent. Je cours vers le camion, m'y hisse le plus vite possible et vais me cacher tout au fond. « Ne m'écrase pas comme ça !» me chuchote une voix familière. C'est Louis, mon brave Louis qui me tend un pantalon et une sorte de casaque grise. En toute hâte, je les enfile par-dessus mon pyjama rayé de bagnard. J'ouvre la bouche pour parler, mais Louis me plaque sa main sur le visage pour m'en empêcher. Il a raison, on entend des voix toutes proches. Une dernière volée de ballots tombe sur nous, puis le camion démarre bruyamment. Bienheureuse secousse, la première d'une longue série de tangages qui m'expédie d'un côté puis de l'autre et me fait oublier l'odeur âcre de ces nippes qui exhale la peur de ceux qui les ont abandonnés. Louis, je ne sais pas, mais pour moi j'ai la tête ailleurs. Je suis Edmond Dantès qui vient de plonger au large du château d'If dans un sac de toile lesté et à qui l'eau salée paraît un délicieux breuvage. Soudain, le camion freine brutalement. À quelques jurons, je comprends que des hommes de corvée sont à bord. Couverts par le bruit du moteur, nous ne les avions pas entendus monter. Cela va sans doute nous compliquer les choses, mais pour l'instant, je m'en moque bien. Dans les médias, ce qui me préoccupe, ce sont les bouts de phrases échangées entre le chauffeur et les sentinelles du poste de garde qui viennent d'arrêter le camion. Je comprends que le sujet de leur conversation ne nous concerne pas, du moins pas directement. En effet, un détenu a pris en otage un SS sous la menace d'un couteau. Il s'est barricadé dans un atelier où il tient toujours en respect une meute de gardiens en fureur. Brave Yanoche, je suis absolument certain que c'est lui qui a tenté ce coup de folie pour nous couvrir et nous ouvrir les portes de la liberté. Les gardiens ont la tête ailleurs et laissent filer le camion et son chargement inoffensif. La diversion a réussi, nous redémarrons, cette fois-ci pour de bon. Couverts par le vacarme du moteur et loin des 3 types qui nous tournent le dos, nous nous concertons, Louis et moi, sur ce qu'il convient de faire. Nous ignorons tout. notre destination, la durée du voyage, la personnalité des trois types, le nombre des soldats assis à côté du chauffeur. Ni lui ni moi n'avons l'expérience de ce genre de situation et par conséquent, aucun plan précis pour la suite des événements. C'est à moi de prendre les choses en main et je propose aux jeunes Français une stratégie simple qui a le mérite de jouer sur notre seul atout, la surprise. Dès lors que nous aurons parcouru quelques kilomètres, à la première forêt que nous traversons, nous saisissons chacun un ballot de linge et nous sautons en nous en servant comme amortisseur. Nous ne tenterons rien sur les hommes de corvée qui sont probablement des détenus comme nous, du moins s'ils ne s'interposent pas. C'est alors que Louis me glisse dans la main une lame en jet intermédiaire entre un tournevis et un fer à bâton. Pour le cas où, je le regarde, il me chuchote gravement. Il faut serrer de toutes tes forces au moment où tu frappes. Les premières frondaisons annoncent une forêt. Nous n'avons pas un instant à perdre. Au prochain virage, dès que le camion ralentit, nous sautons. Empoignant notre ballot de vêtements, nous dégageons vigoureusement le passage devant les convoyeurs médusés de nous voir surgir derrière eux. La surprise est totale. Pour eux, c'est facile à imaginer. Pour nous, ça l'est moins. En fait, il y a un soldat assis, casqué, le fusil entre les cuisses, que nous n'avions pas repéré et qui, lorsque s'éboule les ballots, marque un temps d'arrêt avant de se dresser sur ses jambes. Cette brève hésitation le perd. C'est moi qui m'en charge. Le voyant s'apprêter à crier, je lui plante mon arme improvisée dans sa bouche ouverte, d'où jaillit un flot de sang. Je suis déjà en l'air, retombant lourdement sur la route où le ballot explose. Ce que nous n'avions pas prévu se produit. Peu désireux d'avoir à s'expliquer sur la mort du gardien, les trois convoyeurs sautent également. Leur décision de fuir, plutôt que de nous dénoncer, nous sauve la vie. Les gaillards, plus agiles que nous, sitôt remis sur leurs pieds, nous saisissent et nous entraînent à couvert. Le camion est déjà loin et poursuit sa route cahotante, avec pour seule victime le soldat en train d'agoniser.